sur un fil de lin.
Merci beaucoup Johanna, directrice du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon, d'être venue aujourd'hui sur Radio Pulse. Alors déjà bonjour et puis comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien, merci pour cette invitation.
Ça fait plaisir. T'es venue aujourd'hui nous présenter une nouvelle exposition temporaire autour de Louis XIV. Alors c'est quoi l'histoire de Louis XIV ? C'était un fanatique de la dentelle ?
Alors effectivement, notre nouvelle exposition, elle s'appelle « Créée pour Louis XIV, dentelle de pouvoir ». La dentelle, pendant le règne de Louis XIV, tient une place considérable dans la façon de s'habiller, bien sûr, mais également une place considérable dans l'économie du royaume. Et c'est cette période très importante de la seconde moitié du XVIIe siècle que l'exposition se veut aborder, de manière à remettre justement en contexte ce moment un peu fou, qu'on a un petit peu du mal aujourd'hui à sentir, à imaginer, où la dentelle devient une affaire d'État. Et où Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, va mettre en place une stratégie extrêmement volontariste, une politique industrielle et économique très forte, pour concurrencer les grandes puissances européennes qui étaient Venise, l'Italie, les Flandres, dans le domaine de l'artisanat et du luxe, pour remettre en fait la France au premier plan.
Et en fait, c'est lors de cette période que la dentelle d'Alençon devient totalement iconique.
Oui, je pense que on peut considérer que c'est le point de départ d'une très grande histoire, même s'il existe des pratiques de travaux d'aiguille dans la région d'Alençon qu'on peut faire certainement remonter à la fin du XVe ou XVIe siècle, mais il y a un tournant. À partir de 1665, le moment où Colbert et Louis XIV décident de l'instauration d'une manufacture pour la dentelle, là, ça va changer l'histoire de la région pour la dentelle pour toujours.
Et est-ce que techniquement, il y avait une manière de faire qui rendait iconique la dentelle d'Alençon ?
Alors, là, à Alençon, on parle de dentelle à l'aiguille, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions où, par exemple, un peu plus haut en Normandie, aux alentours de Bayeux, on est sur une pratique de dentelle au fuseau, par exemple. C'est également vrai à Courseul. Plus au centre de la France, dans le Velay, là aussi on pratique la dentelle au fuseau. Alençon est tout de suite spécialisé dans la dentelle à l'aiguille, puisque, a priori, les sources permettent d'imaginer qu'autour de 1650 se pratique déjà dans la région une dentelle à l'aiguille de très très grande qualité, qui aurait été développée par une maîtresse dentelière qui s'appelle Marthe Barbeau-Laperrière et qui aurait en fait réussi à copier la dentelle à l'aiguille telle qu'elle se pratiquait à Venise à la même période.
Et est-ce que tu sais combien de dentelles ont été confectionnées durant ce XVIIe siècle ?
Combien de dentelles, on l'ignore, on aimerait le savoir, il n'y a pas suffisamment d'archives conservées pour pouvoir estimer cela. En revanche, la correspondance administrative que Colbert entretient avec les inspecteurs des manufactures à travers tout le royaume nous permet d'imaginer là aussi un contingent d'ouvriers, d'ouvrières pour la dentelle à l'aiguille composé d'à peu près 8000 personnes. Donc pour le territoire, c'est colossal ce que représente l'industrie dentelière au XVIIe siècle.
Une usine un peu de 8000 dentelières.
Alors, pas à l'usine justement, mais des ouvriers et des ouvrières répartis sur le territoire. Là, on parle d'un territoire plus large qu'Alençon intramuros, hein, bien sûr, qui peut s'étendre jusqu'à Mamers, jusqu'à Fresnay-sur-Sarthe, remonter quasiment aussi jusqu'à Falaise si on va un petit peu plus au nord, donc sur un large territoire quand même comme celui-là. Des personnes qui travaillent essentiellement à domicile ou regroupés dans des petits ateliers de production qu'on appelle des bureaux de points. Mais ça représente une réalité de population très importante. Oui.
Est-ce que tu sais combien de temps on mettait pour confectionner une dentelle ? Alors après, je pense que ça dépendait un peu de la taille aussi.
Ça dépend de la qualité de la dentelle, ça dépend du métrage qui est commandé, ça dépend de tellement de choses. Et puis aujourd'hui, c'est des questions que nous on se pose et on a envie de savoir, c'est terrible. Ce sont des informations qui sont rarement conservées dans les chroniques et dans les des documents administratifs finalement. Donc c'est très frustrant. Aujourd'hui, quand on regarde une dentelle du XVIIe siècle, eh bien on la regarde et on susurre à l'oreille des dentelières d'aujourd'hui, les dentelières de l'Atelier national du Point d'Alençon qui sont nos voisines au musée. Et par rapport à la pratique qui est la leur aujourd'hui, on essaye d'estimer les temps de production qui pouvaient être ceux du XVIIe siècle, avec toutes les nuances qu'il faut quand même mettre sur la table, à savoir que les journées de travail sont à rallonge, que les congés n'existent pas. Donc voilà, ce sont des estimations, c'est frustrant et ça fait aussi partie de la magie de l'étude de la discipline. Il y a tout ce qu'on ne saura jamais. Et il faut faire avec.
C'est sûr. Et du coup, dans cette exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts de la Dentelle à Alençon, quelles sont les pièces que l'on pourra retrouver ?
Alors, on a décidé d'ouvrir le parcours de l'exposition par une sélection de dentelles à l'aiguille italienne, gros point de Venise et point plat de Venise, puisque c'est l'objet, en fait, de la convoitise de Colbert. C'est cette dentelle, au milieu du XVIIe siècle, que les cours européennes s'arrachent. La cour de Louis XIV ne fait absolument pas exception à la règle. Et c'est contre ce drame économique, finalement, que Colbert va vouloir lutter en installant la manufacture royale des Points de France. Donc on veut que le visiteur découvre d'abord cette production. Et ensuite, on met en rapport la production dentelière à l'aiguille française, certainement pour partie produite sur le territoire d'Alençon, qui était spécialisé dans la dentelle à l'aiguille. Mais il y a eu aussi d'autres centres denteliers à l'aiguille très très intéressants, comme Sedan par exemple. Et donc, ça permet aux visiteurs de voir un petit peu, finalement, deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. La dentelle italienne, elle est très exubérante, très... avec des gros motifs, un rythme très orientalisant dans la composition des décors, c'est dominé par la courbe, c'est sublime. Et la dentelle française va, d'un point de vue technique, complètement rivaliser, mais d'un point de vue esthétique, répondre totalement différemment. Et ça aussi, c'est intéressant à observer. On va avoir la transposition stylistique du grand siècle et du goût de la cour de Louis XIV dans les dentelles. Et finalement, pour une raison assez simple, c'est que ce sont les peintres du roi, les chefs d'orchestre des manufactures, de toutes les manufactures royales, qui fournissent les dessins. Et donc, on va avoir cette unité de style. C'est vraiment un moment où, dans les arts décoratifs, il y a une grande cohérence, une grande homogénéité. Et une fois qu'on a vu une dentelle gros point de Venise et un point de France, on ne peut plus les confondre, parce qu'il y a vraiment comme une marque de fabrique. Mais ce n'est pas technique, c'est vraiment stylistique.
Ok. Et est-ce qu'il y aura certaines dentelles qui seront exposées pour la première fois ?
Effectivement, il y a quelques inédits dans cette exposition, des pièces qui ont été acquises par le musée dans les 15 dernières années et qui, pour différentes raisons, notamment de taille, on expose une trentaine de dentelles. Elles sont toutes assez monumentales, c'est complexe à exposer au quotidien et les dentelles ne supportent pas une exposition prolongée à la lumière, donc certaines pièces sont exposées pour la première fois. Elles sont aussi, pour certaines, rentrées dans les collections tout récemment. Nous avons eu la chance l'année dernière d'accueillir un don exceptionnel de 77 dentelles à l'aiguille, donné par Madame Kerguiduf. Et donc certaines de ces pièces collaient parfaitement avec la période chronologique sur laquelle on se concentre dans le cadre de l'exposition. Donc il y a vraiment des inédits et d'autres pièces qui n'ont pas été exposées depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Donc c'est l'occasion de redécouvrir aussi pour nous, ça nous fait toujours du bien, et puis pour nos visiteurs de redécouvrir peut-être certaines pièces qui rentrent en dialogue dans cette exposition avec quelques pièces qui nous ont été prêtées. On a sollicité différents prêts pour vraiment construire un parcours tout à fait complet et que le public soit au maximum immergé dans cet esprit du grand siècle et dans les fastes de la cour de Louis XIV.
D'un point de vue plus pratique, comment est-ce qu'on organise l'installation des œuvres lorsque l'on crée cette exposition ?
Alors d'abord, on tient compte des pièces, on les écoute un petit peu nous raconter leurs contraintes. Je vais supporter d'être à plat seulement. Je vais supporter d'être mannequinée, mais attention. Voilà, on regarde les gabarits et puis en fonction de ces informations-là, on dessine les vitrines de manière à ce que, autant que possible, les pièces, elles puissent vraiment trouver leur place un peu écrin. Nous, on aime bien ça. Après, il faut aussi tenir compte quand on dessine un plan. Ça, c'est des choses que je perfectionne dans le temps parce que c'est toujours, moi, ma difficulté. Des fois, on dessine des plans, les premiers plans, oh, ça a l'air super, ça va être très beau. Ouais, mais finalement, quand j'ai un groupe de 30 personnes, là, comment ça marche? Ah ouais, mais là, ils vont être serrés. Là, ils vont l'avoir dans le dos. Ah ouais, mais... Donc voilà, d'abord les pièces et après les gens. Et ensuite, on essaye de trouver l'équilibre entre tout ça. Et ça vous fait votre scéno et votre plan de parcours d'exposition.
Trop bien. Et est-ce qu'en plus de cette collection, il y en a d'autres toujours visibles?
Bien sûr, la dentelle au Musée des Beaux-Arts et de la dentelle, comme son nom l'indique, c'est l'ADN. Il n'est pas imaginable pour nous que quelqu'un puisse se présenter au musée et ne jamais voir la dentelle au Point d'Alençon. Donc on a un parcours permanent des collections, en plus de nos salles d'exposition temporaires. Et là, toute l'année, on déroule cette grande histoire qui commence, qui connaît un essor fabuleux à partir du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. On raconte cette histoire de la dentelle à l'aiguille sur le territoire et on a la chance de pouvoir montrer les productions contemporaines, tout ce qui sort d'atelier en fait, produit par les dentelières de l'Atelier National. Donc il y a vraiment ce dialogue permanent, passé, présent qui est observable chez nous.
Et d'ailleurs, je me demandais, mais vu que il y a des dentelles qui sont là de façon permanente, comment on fait pour les conserver tout au long de l'année?
Alors, le parcours est permanent, les dentelles ne sont pas toujours les mêmes.
Ah, c'est ça l'astuce.
C'est l'astuce, enfin, c'est même la contrainte absolue, oui. Puisqu'on a fait le pari de l'éternité. La charge des musées, c'est d'assurer la conservation des collections pour toujours. Donc c'est très difficile, mais on s'y attache. Et donc il faut disposer d'une collection qui soit suffisamment en nombre et en qualité suffisante pour se permettre de pouvoir, par exemple, toujours vous expliquer ce qui se passe au milieu du XVIIIe siècle, c'est quoi le changement en dentelle à l'aiguille, et faire une rotation régulière des collections.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Johanna, directrice du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon, d'être venue avec nous sur Radio Pulse. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci.
Who's your daddy?